Alors, pardonnez mon accent texan, hein, parce que depuis le temps, c'est pas grave. C'est touchant pour Rita et moi d'être ici, parce que une grande partie de notre vie, une grande partie de notre vie chrétienne est liée à cette ville et à cette église et à la vie aussi de Dolly Barbara, parce que vraiment, ça fait quand même pas mal de temps. Il y a une époque où j'avais 21 ans. On ne croirait pas, hein? Tous d'ailleurs, il y a une époque où on avait 21 ans. Et c'est à 21 ans, donc, j'ai fait la rencontre de Dolly Barbara ici. Sa première campagne d'évangélisation, 1970, j'allais dire 70, avec Richard Andrzejewski. Et je m'en rappelle comme si c'était hier. Phénoménal comment on peut avoir de la mémoire à 68 ans, ça arrive. Et bon, je me souviens vraiment très bien. Je pourrais raconter toutes sortes de choses, mais en tout cas, c'est touchant. Est-ce que c'est une providence de Dieu ou quelque chose? Certainement, Dieu, il n'y a pas de hasard, hein, comme disait même Einstein. Et donc, nous sommes là aujourd'hui, après toutes ces années, 47 ans, je crois. Ça ne rajeunit pas, Don, hein? Mais on se sent aussi jeune dans le cœur et on a l'impression que c'était hier. C'est comme si les années n'avaient pas passé. Mais je dis aussi Rita, parce que Rita aussi était très impliquée dans pas mal de campagnes d'évangélisation ici à Genève. Il me reste que, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, il me reste qu'un quart d'heure. Donc je vais parler jusqu'à midi et demi. Alors, j'arrive pas à calculer, moi. Pour revenir à cette histoire de ma conversion ici à Genève, j'ai réfléchi beaucoup à quel genre de jeune homme j'étais dans les années 60. Qu'est-ce qui m'était arrivé quand j'étais lycéen étudiant à Paris dans les années 60? Qu'est-ce qui m'avait fait me détourner réellement de Dieu, qui commençait à embrasser un peu l'athéisme et toutes ces choses-là? Qu'est-ce qui avait produit ça? Et j'ai beaucoup réfléchi à ça pendant des années. J'en parle d'ailleurs dans mon livre. Et en fait, c'est ce que j'appelle un mélange explosif. Et ce mélange explosif, en fait, il est en plein essor actuellement. Ça n'a pas changé. Ce mélange explosif qui fait que nos jeunes abandonnent la foi systématiquement, surtout au contact du lycée, mais aussi de l'université, mais aussi au contact de tout ce qui se dit sur le christianisme, etc. Et je voudrais parler de ce mélange explosif parce que je trouve cette idée intéressante. Il y a deux éléments de ce mélange explosif. Le premier élément, je dirais que là, je ne suis pas d'accord tellement avec Francis Schaeffer, parce que dans son livre « La mort dans la cité », il mentionne plusieurs fois que notre société occidentale est une société post-chrétienne. Or, elle n'est pas une société post-chrétienne. Notre société, et c'est là le problème, c'est une société à cheval sur un héritage chrétien qui est là, qui existe, et l'abandon de cet héritage chrétien. Vous savez, d'être à cheval, c'est plus compliqué que d'être soit d'un côté, soit de l'autre. Et j'ai réfléchi beaucoup à ça, parce que c'est ce qui manque un peu dans cette analyse que j'ai relue, parce que j'ai piqué un des livres. Je ne l'ai pas pris parce qu'il me l'a offert. Là-bas, à Bonnefoy, il a amené tous ses livres, il dit « Tiens, je veux revoir ce livre », et ça m'a donné l'idée de ce que j'allais dire ce matin. Schaeffer pense que l'Occident est devenu une société post-chrétienne, c'est-à-dire qu'elle a vraiment abandonné son christianisme. Ce n'est pas le problème, je crois. Le problème de cette société, le problème de ce mélange explosif, le premier élément, c'est que moi, au lycée et dans mes conversations, de ce que j'entendais, on me parlait de certaines vertus, de certaines qualités, de certaines choses, le respect des autres, les droits des êtres humains. Les êtres humains ont des droits. Comment il faut se traiter les uns les autres, comment il faut avoir compassion des pauvres. Et tout cela, je l'entendais, mais je l'entendais dans un contexte de non-croyance. Je l'entendais dans un contexte, par exemple, de lire des textes de littérature. De lire, par exemple, sur les lois de Montesquieu ou de lire sur Diderot, tout ce qu'on pouvait lire au lycée, tout ce qu'on pouvait entendre. C'est dans ce contexte qu'on me parlait de ces choses. Mais jamais, on ne m'a dit, et jamais j'ai saisi qu'en réalité, toutes ces valeurs et ces qualités qu'on voulait s'attribuer, qu'on voulait attribuer aux philosophes, par exemple, ou même à soi-même, à sa propre sagesse, en réalité, n'avaient pas sa source en nous. Elles avaient sa source en Jésus-Christ. Et ça, c'est important de savoir. C'est vrai, je me promène en train, et par hasard, je lis ma Bible. Bah, c'est pas un hasard. Hein. C'était quand les trains avaient les gens qui étaient assis en face des autres. C'était bien pratique. Ça permettait les conversations. Aujourd'hui, c'est difficile. Vous êtes obligé de taper sur l'épaule du gars devant vous. Est-ce qu'on pourrait parler de la Bible? Ça marche pas trop. Alors, j'ai par hasard, j'ouvre ma Bible, il y a quelques années, dans un de ces vieux trains, et une personne commence à me dire, mais vous lisez la Bible, c'est quand même bizarre, quand même. Ça compte pas de croire en Dieu, de lire la Bible, en Jésus. Ce qui est important, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est de faire du bien, c'est de respecter, c'est de pas mentir. Je dis, ouais, c'est bien tout ça, mais ça vient d'où tout ça? Ça vient de la Bible. Non, non, c'est pas possible. Mais oui, ça vient de la Bible. Pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux parce que, à mon avis, et je ne crois pas que c'est vraiment mon avis, c'est dans la Bible, à partir du moment où nous nous attribuons à notre propre sagesse ou à la sagesse humaine des choses qui en fait viennent de Dieu, qu'est-ce que cela fait? Cela nourrit l'orgueil, d'une part, et deuxièmement, cela nous entraîne loin de Dieu. Parce que nous ne voyons pas que ça vient de sa sagesse, nous ne voyons pas que ça vient de sa parole. Donc si on n'attribue plus à Dieu cette justice, cette bonté à Dieu, qu'on s'attribue à nous, ben, Dieu n'a plus besoin. Alors voilà le premier élément explosif qu'il faut comprendre. Que nous vivons au milieu d'un monde qui, quelque part, à garder des comportements chrétiens, mais ne sait pas que c'est chrétien, ne sait pas d'où ça vient. C'est comme si quelqu'un buvait une source, une bonne eau fraîche, mais ne savait pas où est cette source. Il a oublié où elle est, où elle existe. Où elle est cette source, hein? C'est comme nous, à Bilène, on ne peut boire aucune eau sauf l'eau des viands. C'est la seule eau qu'on arrive à boire. Mais elle ne vient pas du Mississippi, cette eau des viands. Elle ne vient pas de l'Oregon. Moi, je sais d'où elle vient. Mais certains de mes amis américains pensent que ça vient du Canada. Je leur dis, mais non, la source, c'est les viands, c'est le lac, ici, ils sont tout étonnés. Il faut savoir d'où viennent ces valeurs, et je crois que ça peut aider, et surtout en parlant à nos jeunes. Parce qu'il faut voir que si nos jeunes se détournent, c'est justement un de ces éléments explosifs, c'est qu'ils veulent par là embrasser des choses qu'ils pensent sont venues de je ne sais d'où. Les valeurs universelles, on dit les valeurs de la République même parfois. Encore réalité, quand on fait l'analyse de beaucoup de ces qualités, de ces valeurs, on voit, comme je dis, ça vient de Jésus-Christ. Ça vient de la parole de Dieu. Alors ça, c'est très important. Il y a un autre problème. Un autre problème qui est un peu comme celui-là, et qui est aussi un mélange explosif. C'est-à-dire que, alors qu'on fait cela d'un côté, je parle dans le contexte de l'éducation, de ce qu'on lit, de ce qu'on entend à l'école, etc., surtout pour les jeunes. De l'autre côté, tout ce qu'on attribue à tout ce qui est Dieu, la Bible, la foi chrétienne, on attribue tous les maux de notre société. Vous avez remarqué ça? On peut prendre l'exemple de Richard Dawkins, parce que Richard Dawkins, les nouveaux athées, bah, tout ce qu'ils font, c'est attaquer Dieu continuellement, attaquer la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est la source de tous les maux. C'est la pire des religions. Il faut dire, depuis quelques années, Dawkins a commencé à changer d'avis. Il a dit qu'il y a des religions peut-être pires. Mais bon, n'entrons pas là-dedans. Mais c'est la pire des religions, c'est la pire des choses. Dieu, c'est horrible. Jésus, c'est affreux. Alors, si vraiment on a cette conviction-là, et qu'on pense que tout ce qui est, toutes ces valeurs chrétiennes, toutes ces qualités chrétiennes, toutes ces vérités de la parole sont source de mal, vous imaginez quand vous mettez ces deux choses ensemble? Eh bien, ça fait exploser la foi des jeunes. Et moi, je suis persuadé que la majorité des jeunes qui, aujourd'hui, ne vont plus dans la foi, ne croient plus en Dieu, c'est à cause de ça. Parce que ça, c'est le message qu'ils entendent constamment, continuellement, dans l'école, à la télévision. Ben, vous ne pouvez pas voir un film, vous ne pouvez pas lire un livre ou lire un article sans que, quelque part, vous allez trouver un de ces deux éléments. Faites l'expérience. C'est intéressant. Même les politiciens, parfois, vont parler de certaines vertus. Mais de qui? De quoi? D'où elles viennent, ces vertus, ces qualités? On ne sait pas. D'où ça vient, tout ça? Ça serait quand même bien si on ne tuait pas son prochain, j'entends, on me dit. Ça serait bien si on ne mentait pas, si on ne volait pas. Oui, ça serait bien. Mais ce n'est pas un avis ou une opinion. Ce n'est pas un système politique. C'est une vérité fondamentale. Qui est dans la parole de Dieu, et qui est même d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit même qu'elle est inscrite déjà dans la conscience des êtres humains, si du moins ils n'ont pas éteint cette conscience. C'est incroyable, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais dit. J'arrive pas à le croire. Non, j'ai pas totalement fini. Donc, à mon avis, comme je le vois, Et même travailler avec les étudiants aussi, mais en Amérique, le problème est le même. En Amérique, c'est exactement la même chose, aux États-Unis. Je crois que ces deux aspects-là, il faut absolument qu'on y réfléchisse d'abord, qu'on comprenne, pour aller un peu plus profond que ce que j'ai dit, mais aussi qu'on en parle. Max Donner m'a dit quelque chose de très intéressant à bonne foi. On parlait de ça justement quand j'ai parlé de la parole par rapport à l'image. Aujourd'hui, les jeunes, ce qu'ils retiennent des choses, ce qu'ils apprennent, c'est par l'image. Eh bien, excusez-moi, mais l'image, c'est nul. Pas toujours. Pour les choses techniques, scientifiques, ça peut être valable. Pour certaines choses, ça peut être valable. Mais l'image, c'est limité. Dieu ne s'est pas révélé par des photos. Par des images, c'est révélé par une parole. Et ça, c'est important. Ça veut dire que lui, il a communiqué avec nous. Ça veut dire quoi? Nous devons communiquer avec nos jeunes. Nous devons parler. Et quand je dis parler, je veux dire chaque jour. Vous savez, il suffit d'une journée ou deux journées pour que nos enfants, nos jeunes, entendent quelque chose, ils pensent, et ça y est, ils commencent déjà à réfléchir d'une autre manière. Donc quotidiennement, c'est aujourd'hui l'heure du salut. C'est aujourd'hui qu'il faut parler. Et Max Donner me disait, ça m'a surpris, il m'a dit, j'ai parlé avec l'évêque de Marseille, qui est en fait l'évêque en chef de tous les évêques catholiques en France. Et je disais à l'évêque de Marseille, mais il faut que les parents parlent à leurs enfants, et c'est pas l'Église qui vont apprendre forcément tout ça. Et l'évêque a dit, tiens, j'ai jamais pensé à ça, ça c'est pas mal. Pas pour critiquer l'évêque, mais pour dire à quel point c'est quelque chose qui est évident, mais on n'y pense pas forcément. Alors pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que je pense que pour vous qui avez des enfants qui grandissent maintenant, qui vont au collège, qui vont au lycée, à mon avis, personnellement, je pense que c'est ces choses-là, et il y a la télé, l'internet aussi, tout ça, c'est ces deux choses qu'il va falloir discuter. Que les bonnes choses de la société, qu'on peut dire, les valeurs de comportement, de respect des autres, toutes ces bonnes choses qu'on a héritées en fin de compte du christianisme, ça vient de Jésus en fin de compte. Sans Jésus, la société serait restée gréco-romaine et j'aimerais pas y vivre même une journée. Et puis, bien sûr, l'autre côté, c'est que mettre Dieu sous le jugement, c'est dangereux, parce que nous ne sommes pas capables. Et ça, c'était le texte qu'on ne veut pas relire, mais le texte dans Jérémie 18, parce que c'est intéressant qu'à l'époque de Jérémie et des prophètes, si vous lisez bien attentivement, c'est pareil qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, au lieu de regarder sa culpabilité, il regardait la culpabilité, entre guillemets, de Dieu. Alors C.S. Lewis a un livre que je vous recommande de lire. C'est pas vraiment un livre qu'il a écrit, c'est des essais qu'il a... C'est des conférences, en fait, qu'il a données, même avant, dans les années 40, 50, qui ont été condensées dans un livre. En français, le livre, c'est Dieu au banc des accusés. Je sais pas s'il est toujours publié, mais c'est un bon livre. C.S. Lewis dit quelque chose, et je vais retrouver sa citation si je peux, qui, à mon avis, est très importante. À partir du moment où nous plaçons Dieu sous notre jugement, le jugement des hommes, alors automatiquement, cela nous entraîne à nous absoudre nous-mêmes de toute faute. Ce n'est pas remarqué que les gens ont du mal à accepter qu'ils ont fait des fautes ou commis des erreurs. Plus nous mettons Dieu sous le jugement, plus nous nous absolvons nous-mêmes de tout mal. Ah, ça, c'est vraiment ce deuxième élément-là est catastrophique. Vous ne pouvez jamais faire un reproche, vous ne pouvez jamais corriger, vous ne pouvez jamais dire tu as mal fait, parce qu'à partir du moment où nous pouvons juger Dieu, c'est nous qui sommes Dieu. C'est nous qui savons. Et voilà donc le mélange explosif dont je voulais parler. Et c'est extraordinaire, mais j'ai même de l'avance. Mais en Suisse, il vaut mieux avoir de l'avance que du retard, car les conséquences peuvent être graves. Mais c'est en tout cas un grand plaisir pour nous d'être parmi vous. Et malheureusement trop rare et trop court. Mais en tout cas, Rita et moi, nous prions régulièrement pour l'Église ici, pour ce travail, pour toutes les Églises en France. On ne vous a pas oublié. On pense à vous beaucoup et on prie que Dieu nous permettra de nous retrouver plus souvent et de nous encourager les uns les autres, peut-être mieux et plus souvent que ce que ça peut être dans le passé. Et on prie pour ce grand changement qui va avoir lieu. Mais comme a dit un frère, je ne sais pas qui a dit ça, grâce à Skype, tout ira bien. Pas vraiment. Que Dieu vous bénisse et qu'on puisse passer un petit moment encore ensemble.